pouvez dire, si vous l'utilisez, voici le revenu médian déclaré UDA d'un artiste pour sa portion de revenu artistique. C'est une méchante différence, là. Parce que si, mettons, je connais un ancien partner de firme comptable, Patrick, là, tu sais, il est auteur de livres, OK? Il a fait des millions comme partner de firme comptable. Mais il a écrit 2 livres, mettons. Est-ce que je vais aller dire que ce gars-là crève de faim en isolant son revenu de livre? La réponse est non.
Mais je pense que le fond de l'article de monsieur, de madame Durocher, c'est que quand on compare ceux qui dirigent les organismes culturels, etc., quand on compare au salaire des gens qui travaillent en culture, il y a quand même, je pense que c'est le fond de sa réflexion, il y a un décalage.
Il y a des calmes, vous allez bien calme, encore une fois, parce que là, tu prends, tu compares revenu UDA. Je vais te donner une autre affaire. Il y a bien des humoristes qui gagnent bien plus cher que le premier ministre. Il y a des chanteurs au Québec qui font des meilleures payes. Il y a des animateurs qui télé qui font des meilleures payes qu'un ministre. Donc, tu sais, on va se le dire, là, l'UDA qui rêve pas de faim, là, tout le monde. Il y en a qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Puis il y a une majorité qui ne font pas beaucoup d'argent parce que il y a beaucoup de monde qui peuvent être membres UDA. Mais c'est pas tout le monde qui peut gagner sa vie comme membre UDA. Parce que la nuance est là. Tu sais, Patrick, si je me définis comme, moi, joueur de ringuette, mettons, puis j'aime ça jouer à ringuette, est-ce que je peux dire, si j'ai pas de talent, que je peux nécessairement dire je gagne ma vie en jouant à ringuette? Non. C'est le même principe un peu. Je trouve que quand on utilise des chiffres comme ça, il faut les comparer avec des bons chiffres et être honnête dans ce qu'on présente.
Très bien. Parle-nous voilà. Du documentaire, le dernier flip.
Oui, en fait, le dernier flip soulève un bon point de départ, c'est de dire, est-ce qu'on est en train de marchander l'immobilier et est-ce qu'on devrait pas revenir à une logique toute plus collective? Puis, je suis assez d'accord avec la prémisse qu'on m'a présentée de dire qu'il y a un problème marchand à ce niveau-là. Maintenant, quand on tombe à l'extérieur du marchand, quand on se dit, écoute, les immeubles et tout ça, ça devrait être protégé, collectif. C'est quoi le problème?
C'est quoi?
C'est qui va l'entretenir, qui va le payer. Parce que quand on a des logements sociaux, ça coûte cher à entretenir, il faut payer les impôts de ça, puis c'est normal. Quand on a des coopératives d'habitation, c'est super dans le modèle théorique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont membres de coopératives, qui vivent dedans, qui partagent les tâches et qui gèrent l'immeuble qui a été au départ subventionné. Le problème, c'est qu'il y a toujours là-dedans des enjeux de est-ce que les gens l'utilisent à des fins personnelles plus que des fins collectives? Et deux, est-ce que l'entretien est au juste niveau que ça devrait être? Et est-ce qu'on fixe les loyers au bon montant? Troisièmement, Patrick, si on veut enlever la logique marchande des immeubles, on a un problème majeur. C'est qu'il va falloir enlever beaucoup de libertés individuelles. Puis je te donne un point entre toi et moi. Si, mettons, toi, t'as un triplex, puis tu décides que le premier, tu mets une toilette en or, parce que toi, t'aimes ça faire tes besoins dans une toilette en or, mettons. Ça donne la valeur à ton appartement, ou plus ou moins, disons-le, mais c'est un exemple. Ou tu mets une belle cuisine à 200 000. Ben, si t'as pas le droit de marchander ton immeuble à la valeur que tu veux, ben, il y a un enjeu des travaux que tu vas faire dedans. Et ça, c'est toujours ça. Le problème où je suis d'accord avec toute cette démarche-là, c'est qu'on est rendu à marchander le point de base humain, à parler de locataire comme de porte, à parler d'humain comme des affaires à optimiser, et à parler de locataire tout le temps en fonction de parasites puis de propriétaires en fonction de, t'sais, gestionnaires de grands projets, on les valorise, t'sais, mais pour être vrai et honnête, là, quand t'es propriétaire à échelle humaine puis que t'entretiens ton immeuble, t'es capable de le faire tout seul ou avec une équipe, tout ça, mais quand t'es rendu avec 200, 300, 400 portes, là, un locataire, c'est un parc immobilier, puis tu vas regarder ça comme une feuille Excel, puis tu vas faire des calculs, puis tu vas dire, est-ce que si je change la salle de bain, c'est rentable, plus ou moins, je vais mettre le minimum. Et c'est ça aussi l'enjeu de la privatisation. Donc, des deux bords, on a des problèmes. D'un côté, on a des logements sociaux qui sont pas super entretenus, des coops non plus, qui sont pas parfaites. Puis de l'autre côté, t'as des logements privés qui sont dégueulasses, parce que les propriétaires n'y voient pas d'intérêt à rénover. Donc, il y a peut-être une grande discussion collective à avoir pour trouver des solutions mitoyennes. Mais il n'y a pas le démon d'un bord et le bien-être de l'autre. Je pense sincèrement qu'il y a une collectivité qui doit se parler puis peut-être faire des projets collectifs. Mais quand c'est pas les pièces personnelles qui rentrent, des fois il y a des problèmes, parle-en à Rivcan. Si ça avait été privé, je suis pas sûr que ça aurait coûté aussi cher.
Merci, Pierre-Yves. Je souligne que le documentaire dont parlait Pierre-Yves McSween, ça s'intitule « Le dernier flip » et ça va être présenté ce jeudi, 16 mai, à 20h sur Ici Télé. Donc, on va explorer là ce parc immobilier, cette petite partie du parc immobilier qui est hors marché, donc à l'abri de la spéculation. 17h34, au retour, Mme Beaudoin, là.
Bonjour, ici Jean-Claude Gélinas. Je vous invite à ne pas manquer en semaine sur CFIX FM 93. Rimouski, les petites vites.
Son Vidéotron X Plus Rimouski vous offre son kiosque de téléphone cellulaire Vidéotron avec des produits tels qu'iPhone, Motorola, TCL, Google et Samsung avec sa gamme S24. De plus, profitez des forfaits incluant une tonne de données par mois et une banque annuelle de données supplémentaires. Le tout à partir de seulement 35$ par mois plus taxes, appels et textos illimités au Canada. Certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin au 150 Avenue Belle-Île ou au sonxplusrimouski.com.
Le samedi 25 mai de 19h30, soirée de boxe construction Jolimont à l'Amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de haut niveau, sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique, mettant en vedette des boxeurs du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Billets en vente à partir de 25$ sur ticketaccess.net ou sur le site de l'Académie de boxe BSL. Un événement présenté par l'Académie de boxe BSL de Rimouski, en collaboration avec la Corporation des événements spéciaux de la ville de Mont-Joli et le Quality Inn de Mont-Joli.
Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets polarisants. À Rimouski, c'est CFIX FM 93. Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles du 13 mai 2024. Le gouvernement du Québec verse 14,8 millions sur 4 ans pour prévenir les risques liés à l'érosion et à la submersion côtière sur le territoire de Rimouski. Les travaux seront réalisés d'ici le 31 mars 2027. Selon la députée ministre Maïté Blanchette-Vézina, l'objectif des travaux sera d'identifier des solutions pour protéger à long terme ces zones fortement exposées. Le maire Guy Caron ajoute que l'investissement témoigne de l'engagement du gouvernement à prendre des mesures concrètes pour protéger les Rimouskois et leurs infrastructures. Les actifs visés incluent notamment 363 propriétés résidentielles et 12 bâtiments commerciaux. Le groupe citoyen Le Pont de l'Avin, ça tient pas debout, réclame formellement la dissolution du comité de vigilance et de suivi environnemental formé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Selon son porte-parole, Michael Rioux, dès l'annonce de la formation de ce comité, les opposants avaient des doutes sur son bien fondé. Le groupe exige du même souffle, tout comme la ville de Trois-Pistoles, qu'un nouveau bureau d'audience publique sur l'environnement soit entrepris pour entendre les nombreuses préoccupations légitimes de la population. La Sûreté du Québec déplore un grave accident de la route survenu dans le Témiscouata. Peu avant 20 heures hier, les services d'urgence ont été appelés concernant une collision entre un véhicule utilitaire sport et l'arrière d'un poids lourd qui était immobilisé sur l'accotement dans le secteur de la route 185 de Saint-Honoré-Témiscouata. 4 occupants ont été blessés et transférés vers un centre hospitalier. Une des victimes a subi des blessures importantes, mais on ne craint pas pour sa vie. L'enquête tend à démontrer que la fatigue pourrait être à l'origine de la collision. Et enfin, la ville de Rimouski entreprend aujourd'hui d'importants travaux de planage et de pavage dans plusieurs rues du centre-ville, et ce jusqu'à vendredi. Des travaux de planage seront effectués dans le district Saint-Robert, sur les rues Saint-René, Saint-Louis, Saint-Robert, de Gaspé-Ouellette, Potvin et sur l'avenue Rouleau. Au centre-ville, les rues Sainte-Marie, Saint-Germain, Lavoie et Évêché-Ouest sont visées. Ces travaux seront suivis de l'asphaltage des mêmes rues dans le district Saint-Germain. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur CFIX.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFIX FM 93.
Salut Valérie.
Salut Patrick.
OK, c'était aujourd'hui une journée cruciale au procès criminel de Donald Trump, c'est-à-dire que Michael Cohen, qui est son ancien avocat, mais surtout homme de main, c'est lui qui réglait tout plein de problèmes pour lui, souvent, disons, avec beaucoup de, je ne veux pas dire de violence, mais beaucoup de brutalité en coulisses, ben, il a commencé son témoignage contre son ancien patron.
Oui, au point où on l'appelait le pitbull. Hein? On disait que c'était l'homme de main, le fixeur, que c'était lui qui pouvait régler tous les problèmes, comme tu viens de le dire, pour Donald Trump. Parce qu'il disait, je vais aller très, très loin si c'est pour plaire à mon patron. C'était vraiment important pour lui de l'aider. Il était prêt à mentir. Il était prêt à faire payer des actrices porno pour ne pas qu'elles parlent, comme dans ce cas-ci avec cette histoire avec Stormy Daniels. Donc, Michael Cohen, un ami, un confident, la personne qui était le plus près de Donald Trump, mis à part les membres de sa famille et de sa garde rapprochée, qui a témoigné. Donc, c'est le témoin central de toute cette affaire, parce qu'il a fait ce paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels.
Mais c'est quand même, faut le dire, c'est un témoin qui va être susceptible, vulnérable à beaucoup d'attaques de la défense. Parce que Michael Cohen a menti pour M. Trump. Il est allé en prison pour son rôle dans ses paiements illégaux. Disons que pour un avocat de la défense, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'endroits où frapper M. Cohen.
Oui, c'est presque un cadeau. Hein? Son CV, un an derrière les barreaux dans une peine de 3 ans, de la fraude fiscale. Il a menti au Congrès, donc parjure. Il dit avoir fait, il a violé les lois électorales aussi. Il dit avoir tout fait ça pour le compte de Trump. Il dit, j'ai menti pour lui. Mais là, c'est difficile à dire. Pourquoi est-ce que tout à coup, là, il y a une conscience et là, il décide d'aider? C'est sûr qu'il y a quand même un côté, il a vendu des livres, il a fait plusieurs entrevues. Alors, on va jouer là-dessus aussi beaucoup pour dire, oui. Ben, t'as pas eu ce que tu voulais avec Trump parce que la rumeur voulait qu'il voulait être chef de cabinet.
Mais je lisais quand même là, que ce que les procureurs veulent faire en utilisant Cohen, c'est utiliser ce qu'il a à dire pour confirmer ce que d'autres témoins ont dit et ce que de la documentation prouve.
Parce que même si on peut attaquer sa crédibilité, tu peux pas avoir ça sans Michael Cohen. Parce que c'est Michael Cohen qui a donné le chèque. À la limite, Stormy Daniels, c'était pas aussi important, même si c'était croustillant, spectaculaire. On s'en est parlé plusieurs fois la semaine dernière. Mais Michael Cohen a fait le paiement. C'est sa version contre celle de Trump, mais il a quand même des textos, des appels, des enregistrements. La chose qu'il n'a pas, et ça, c'est très particulier, on n'a pas de courriel. Donald Trump a jamais eu d'adresse courriel. Moi, mais, ça me fascine à chaque fois.
Non, mais écoute, ça te fascine, mais j'ai tombé sur un papier ou deux là-dessus. Trump, semble-t-il, a pris là, a appris comment faire de la business puis comment, disons, pas te faire pogner de Roy Cohn, qui était un avocat, semble-t-il, là, très comment je te dirais là, qui Roy Cohn était une sorte de gars à la Michael Cohen qui arrangeait les affaires. Okay. Il a toujours utilisé Trump, les avocats, pour se sortir du trouble, pour faire des affaires illégales qui ont l'air légales. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas d'adresse, parce qu'il savait qu'une adresse courriel, ça a le potentiel, semble-t-il, de ça a le potentiel de comment je dirais.
Ben, c'est que t'as pas de traces. Tu peux pas décider, par exemple, après ça, avec des adresses courriels, il y a des traces électroniques. Un papier, ça se déchiquette, ça se déchire.
C'est
tu
ça.
Peux le brûler, tu peux faire
un
ce que tu veux.
Un courriel laisse des traces.
Oui, alors là, c'est vraiment ce qu'on joue avec, comment il a écrit ses chèques pour prouver que c'est lui qui est au courant de certaines choses. Les virgules. Mais si on avait une trace électronique, ça reste sur des serveurs, oui. Même à la Maison-Blanche, si on avait des indications d'ordre qu'il a donné.
Si la police veut trouver un courriel qui a été effacé, il y a moyen de le faire. Mais Trump n'a pas d'adresse courriel, semble-t-il, exactement pour ça.
Oui, puis il n'utilise pas son ordinateur. Là. Je te dirais, la seule chose qu'il utilisait, c'était Twitter pendant qu'il était président. Il était très actif pour envoyer des messages. Alors, Michael Cohen donne sa version des faits. Ce qu'on a appris qui est intéressant, bien sûr, c'est sa parole contre celle de Trump, c'est que Trump s'en foutait de Melania. C'est pas, il a pas voulu camoufler cette histoire-là pour pas que sa femme, qui vient d'accoucher de leur fils, ait à vivre, ait à se rappeler, finalement, qu'il l'a trompé. Parce que c'est au moment, pardon, là, je précise, au moment où elle venait d'accoucher, là. Après ça, c'est en 2016 que tout ça s'est déroulé. Il a dit, tu peux tirer de donner le paiement jusqu'après l'élection. Parce qu'il dit, si Stormy Daniels veut vendre son histoire, ça change absolument rien pour moi si j'ai gagné l'élection parce que je vais être président. Alors, même si c'est honteux, même si ça va pas bien pour moi, ça ne me dérange pas du tout.
Et on me glisse une note à l'instant, c'est Catherine Beauchamp qui est revenue en studio pour nous dire qu'il y aura un film sur Roy Cohn qui va être présenté à Cannes. Mais Roy Cohn, je te dis, là, c'est un personnage sulfureux de l'histoire, disons, de politique américaine aussi. Il y a une patte là-dedans. Il a été un mentor pour Trump, justement pour quoi faire sans te faire pogner.
Oui, ben c'est intéressant de savoir si justement, ben je vais regarder ce film lorsqu'il sera disponible, parce que je connais pas le personnage mis à part de nom. Mais oui, on va voir si Trump a utilisé cette technique-là. Donc, pour boucler la boucle sur Michael Cohen, il va continuer de témoigner demain. Il va se faire ensuite cuisiner, comme tu l'as dit tantôt, par les avocats de la défense. Donc, on verra quelle version va être crue, mais il a donné fait des petits sourires aux membres du jury pour voir s'il y avait ça passait bien son message.
Monsieur Trump, semble-t-il, ferme les yeux. Ça, c'est un autre truc que j'ai lu. Je sais pas si tu es tombé là-dessus. Trump ferme les yeux parce que pour lui, c'est une façon de ne pas éclater,
oui.
Semble-t-il.
De méditer.
Effet secondaire, quand il ferme les yeux, il y a plusieurs témoins qui disent qu'il a l'air d'un monsieur qui s'endort aussi,
oui.
À un certain moment.
Et heureusement pour lui, il n'y a pas de caméra. Je rappelle, dans la salle de cours, il n'y a pas de caméra. Alors, les seules choses qu'on peut voir, c'est la personne qui dessine. Ouais. Si vous avez déjà vu les images, les portraits des gens qui sont jamais... C'était jamais très beau.
Les,
hein?
Les dessinateurs judiciaires. Là.
Oui.
Parce que dans
ce procès-là.
Des fois, ça peut être ressemblant. Oui.